Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Quelques jours avant la fin de l'année, on va parler de plusieurs sujets d'actualité. Alors d'abord un sujet d'actualité pour les catholiques du diocèse de Tarbes et Lourdes, c'est l'avenir de la maison diocésaine, la maison Saint-Paul qui se situe au 51 rue de Trénès à Tarbes. Après plusieurs années d'échanges, de discussions, de débats même parfois, eh bien ça y est, vous avez pris une décision, annoncé la décision quant à l'avenir de cette maison.
Je trouve que le processus qui a conduit à cette décision est assez exemplaire et assez remarquable de ce qu'on appelle la synodalité dans l'Église, puisque c'est un dossier très très ancien que j'ai découvert lorsque, au moment de ma nomination, j'ai consulté le site internet du diocèse et repéré l'onglet Maison Saint-Paul ou Maison diocésaine, et j'ai lu toutes les contributions, tout ce qui avait été fait, y compris par des fidèles du diocèse et bien plus large que la seule ville de Tarbes, puisque c'est la maison diocésaine, voilà comme on l'appelle, la maison Saint-Paul. Et donc, j'ai repéré aussi que le dossier n'avait plus beaucoup bougé, que des décisions n'avaient pas pu être prises, à cause de tensions, sans doute, et puis ensuite le départ de Mgr Brouvet. Dès mon arrivée, j'ai été saisi par des gens à qui ce dossier tenait à cœur. Et donc, je me suis engagé à le faire avancer, bien évidemment. D'autant que des éléments nouveaux sont apparus, c'est-à-dire que même si depuis très très longtemps, les gens se disaient « on ne pourra pas continuer toujours comme ça, il faudra bien qu'on pense à… » etc. Eh bien, certaines visites de commissions de sécurité de l'administration ont exprimé que ce « on ne pourra pas continuer comme ça ben, », c'était pas dans 10 ans, c'était pas dans 5 ans, c'était d'ici 15 jours, si vous n'avez pas fait ce qu'il faut.
Pourquoi, c'est quoi le problème, en fait?
Alors, des problèmes de sécurité, de mise aux normes de sécurité, notamment de sécurité incendie, avec des questions de circulation, des questions d'hébergement, des questions d'isolation, alors j'entre un peu dans les détails, mais d'isolation des planchers, de communication. S'il y a un départ de feu quelque part, de rapidité pour le feu de se propager, d'empêcher les gens d'évacuer. Et donc toutes ces questions-là sont des questions assez redoutables. Et l'administration est vraiment, vraiment sévère là-dessus. On a dû, de manière tout à fait urgente, mettre en difficulté un certain nombre de groupes et d'activités programmées à la maison Saint-Paul, parce qu'on ne pouvait plus utiliser la cuisine, on ne pouvait plus utiliser les salles à manger dans les sous-sols de la maison, etc. etc. Bon. Et donc, à cela s'ajoutent des questions de coûts d'exploitation absolument considérables. La maison, ben, elle n'est pas très bien isolée, les menuiseries, la chaudière est extrêmement vétuste et tombe en panne très très régulièrement. Et donc, là aussi, c'est des charges financières très importantes et trop importantes.
Est-ce que vous diriez, pardon de vous couper, que aujourd'hui la maison Saint-Paul telle qu'elle est, avec le fonctionnement que nous en avons, l'usage que nous en faisons, elle est un gouffre financier? Vous iriez jusqu'à dire ça?
Ah ben oui, oui, bien sûr. Elle représente à peu près un tiers du déficit annuel de la gestion du diocèse. Donc c'est vraiment considérable. Je compte pas les paroisses là-dedans, hein. Mais vraiment les services du diocèse, un tiers d'un déficit chronique qu'on essaie de corriger est assumé ou représente le coût ou la charge de la maison diocésaine elle-même. Alors, évidemment, on ne va pas faire disparaître ce coût parce que la maison diocésaine est un outil qui est au service de la mission du diocèse, mais tout de même, on peut considérablement diminuer cette charge et on doit le faire. Alors, plusieurs hypothèses ont été imaginées, vendre, louer, déménager, aller carrément ailleurs, voire vendre et construire une maison diocésaine neuve, proportionnée à nos besoins réels. La maison diocésaine telle qu'on la connaît, c'est l'ancien grand séminaire du diocèse. On l'a investi, et alors, l'homme est ainsi fait que si on avait double de surface, eh bien on occuperait sans aucun problème de toute la surface. Mais si on construit une maison à neuf et qu'on la conçoit vraiment à partir de nos besoins, évidemment on ne construira jamais une maison aussi grande. Et donc, finalement, la décision qui a été prise, qui a été annoncée, c'est on ne vend rien, on garde tout. La propriété telle qu'elle est, l'emplacement est tout à fait remarquable à Tarbes, et y compris pastoralement, très proche du centre-ville, très proche du campus universitaire qui permet d'imaginer des projets, y compris des projets pastoraux. Et donc, on garde la maison, mais on l'exploite de manière différente. On la coupe en trois morceaux. Un morceau, le plus petit, qui est à l'entrée du 51 rue de Treynès, est confié à la nouvelle paroisse de Tarbes, qui y installe son secrétariat et ses services paroissiaux. La partie qui est la plus proche du lycée Saint-Pierre, donc à l'opposé de cette entrée, toute l'aile est séparée du reste de la maison, et un exploitant, pour une activité qui nous conviendra, est en cours de recherche, des contacts sont pris. Ça peut être un promoteur pour une résidence étudiante, ça peut être une administration qui profite des mètres carrés importants qui sont là pour s'y établir. Bon, on cherche.
Ce sera de toute façon un projet qui est quand même cohérent avec ce que nous sommes.
Oui, en tout cas pas incompatible, évidemment, même si c'est pas nous qui exploiterons ce bâtiment et on en garde la propriété, donc les loyers engendrés ou générés nous permettront de rembourser l'emprunt, qui nous permet de transformer la partie centrale de la maison, la partie principale, que nous gardons au service donc du diocèse. Et la nouvelle maison diocésaine, ce sera la partie la plus grande, la plus longue, qui va de la salle Périguerre, pour ceux qui connaissent à l'angle quand on arrive en voiture, jusqu'au bout de la galerie, en ligne droite, où il y a la grande chapelle.
Donc évidemment, on garde la chapelle.
Et on garde la grande chapelle, et donc tous les étages à la verticale de cette aile et de cette galerie sont mis à la disposition ou seront transformés pour avoir un chauffage aux normes et économique, pour avoir des menuiseries étanches pour diminuer le coût des charges d'exploitation, pour avoir tous les bureaux dont l'administration du diocèse a besoin.
Ils sont un peu dispatchés là aujourd'hui. Enfin, quand on arrive à Maison-Saint-Paul aujourd'hui, les services, les mouvements sont un petit peu partout. Il y a des bureaux vides, puis tout d'un coup il y a trois personnes. Ça, le projet, c'est aussi que tout soit plus organisé de manière plus logique.
C'est ça, et puis gérer de manière tout à fait cohérente et raisonnable, et donc cette solution vraiment coche beaucoup de cases dans tous les paramètres dont on doit tenir compte, et son exposé a vraiment été accueilli très très favorablement lors de la soirée d'information publique qui a été organisée il y a quelques jours, et vraiment on est très très heureux de cela. Et maintenant, un comité de pilotage se met au travail dès la rentrée de janvier pour organiser toute cette période qui va durer 2 ans à peu près.
Ça veut dire qu'en 2026, déjà, tout ce que vous nous expliquez là, ça va démarrer dans quelques mois ou dans quelques semaines, on va commencer à voir des choses qui vont bouger dans ce sens-là.
Ne serait-ce que des déménagements internes à la maison pour libérer la partie qui ne sera plus exploité par le diocèse, et rapatrier tout ce qui s'y trouve vers le corps de bâtiment qui reste à la disposition du diocèse. Donc déjà ça, et ensuite, une fois que toute la conception des travaux nécessaires sera réalisée, eh bien forcément on verra les travaux commencer à se mettre en place. Donc jusqu'à l'été prochain, on ne verra pas grand-chose, sauf de possibles déménagements, mais à partir de l'été prochain, ça commencera à devenir tout à fait sensible.
S'agissant des travaux, j'ai deux questions. D'abord, quid de l'écologie là-dedans? Est-ce qu'on peut imaginer que la Maison Saint-Paul profite de cette étape-là dans son histoire pour peut-être travailler le label Église verte ou autre chose? Enfin, en tous les cas, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Et puis, pour être sûr d'avoir bien compris, le diocèse va porter le coût des travaux dans la partie qu'il garde, mais dans les deux autres ailes qui ne sont plus exploitées par le diocèse, les travaux ne sont pas à la charge du diocèse.
La partie qui est confiée à la paroisse est à la charge de la paroisse. Elle est confiée gratuitement pour la paroisse de Tarbes, mais c'est la paroisse qui ensuite en assume l'exploitation et les charges qu'il y a à assumer. Et même chose pour la partie dont on cherche encore un partenaire pour son exploitation. Mais évidemment, il fera avec les contrats qui vont bien, les conventions, les accords, les baux qui vont bien, bail à construction ou autre forme de bail, de mise à disposition, mais évidemment, on signera lorsque l'activité proposée proposée sera convenable pour un bâtiment et la proximité avec les activités de la maison diocésaine, de toute façon. Voilà.
Et s'agissant de l'écologie, du label peut-être Église verte ou autre chose, enfin quelque chose qui pourrait aller dans ce sens-là en tous les cas.
C'est un élément important du cahier des charges qui est confié au comité de pilotage. Déjà, ne serait-ce que le changement des menuiseries et le changement du système de chauffage. Évidemment, il va tenir compte de cela. Et ce label Église verte, qui est un label auquel je tiens, et auquel je tiens aussi bien du côté du sanctuaire que donc du côté du diocèse, chaque fois que c'est possible, sera un des guides des choix qui seront faits.
Combien ça va coûter tout cela au diocèse ?
Alors, environ 4 millions d'euros.
Donc, qui seront répartis sur donc, plusieurs années. Donc, ça veut dire plusieurs années peut-être où les donateurs du diocèse pourraient être sollicités pour cette opération-là en particulier.
Alors, une partie viendra d'un petit fonds, un petit volume de fonds propres qui serviront à pouvoir ensuite faire des appels à des donateurs, grands et petits. Donc, forcément, il y aura des campagnes d'appel aux dons ciblées sur ce projet de la maison diocésaine, mais aussi des grands donateurs et du mécénat et l'emprunt qui sera évidemment nécessaire également et financé par les économies d'exploitation que nous allons réaliser de toute manière. Donc on n'est pas extrêmement inquiet sur la capacité à financer ce projet qui va s'amortir sur une trentaine d'années à peu près.
Ma dernière question sur ce sujet-là, Mgr Mika, c'est que je l'ai dit au tout début, c'est un sujet, l'avenir de la Maison Saint-Paul, qui a suscité beaucoup de débats, d'émotions aussi, parfois des conversations un peu virulentes. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette Maison Saint-Paul ? Est-ce qu'il faut s'en séparer ? Est-ce que c'est raisonnable de la garder ? Comment on la garde ? Il y a eu vraiment des années difficiles de discussion sur ce sujet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la décision que vous avez prise avec vos différents conseils vous laisse en paix ? Est-ce que vous êtes tranquille avec cette décision ?
Alors, ça fait depuis des mois que je croise avec divers collaborateurs tous les paramètres. Certains sont des paramètres sur lesquels on a une certaine prise, d'autres non. Certains nous imposent des choses et puis voilà. Et la décision prise, moi, me laisse en paix parce qu'il me semble qu'elle est la plus à la fois raisonnable tout en maintenant une capacité d'ambition réelle et de développement au diocèse et de développement de projets dont on peut garder la capacité. Et puis la réaction des gens, aussi bien des collaborateurs qui ont... si j'ose dire, le nez sur le dossier depuis des mois avec moi, que des gens qui sont informés et des paramètres en présence et des décisions prises ou de la décision prise. Et les réactions des uns et des autres me confortent dans le sentiment qu'en effet, c'est sans doute la meilleure décision possible aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, on passe au deuxième sujet. On va parler de la crise agricole, la crise dans le milieu agricole. Sur le fond du Mercosur, on a depuis 10 jours une grosse mobilisation des agriculteurs partout en France, mais en Occitanie, peut-être encore davantage, dans les Hautes-Pyrénées également. Les agriculteurs, depuis 10 jours, bloquent l'entrée des autoroutes. Et puis, depuis ce jeudi matin, ils ont décidé de faire des barrages, de mettre en place des barrages filtrants aux abords des vallées. Ils commencent par Arreau et puis ils promettent d'aller crescendo s'ils n'ont pas de réponse favorable du gouvernement. Eux, ils réclament un protocole très simple. Hein, ils ne veulent plus de l'abattage total des cheptels. Alors voilà, on va pas aujourd'hui décrypter en détail toute cette crise agricole, mais vous, comment vous situez par rapport à ça ? D'abord, la souffrance des agriculteurs, du monde agricole en général, et puis, j'allais dire, leur manière de faire.
Alors voilà, il y a deux choses. Il y a le Mercosur et les accords européens, les discussions. Bon, ben voilà, on en sait ce que les médias en disent, le JT tous les jours. Bon, très bien. Et puis il y a la crise sanitaire qui touche le sud de notre pays et y compris notre département des Hautes-Pyrénées. Et voilà, ces deux dossiers, c'est, j'ai envie de dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui déclenche beaucoup d'inquiétudes. Et l'inquiétude conduit à la colère. Alors, c'est compliqué pour moi, je ne suis pas un spécialiste, mais de démêler les éléments du dossier plus politique et les éléments du dossier plus existentiel des agriculteurs qui sont touchés par des mesures gouvernementales de décision d'abattage de troupeaux parce qu'il y a une crise sanitaire qui est là, une menace. Bon, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? C'est ce que disent les uns les autres. Bon, alors je ne suis pas un spécialiste, mais de mon côté, je suis très très touché évidemment par l'expression de cette souffrance et de cette inquiétude. À travers les différentes visites pastorales que j'ai menées dans le diocèse, ben j'ai visité beaucoup de d'exploitations agricoles, des éleveurs, des céréaliers et d'autres réalités de ce monde agricole. Et évidemment, ben, désormais, je mets des visages derrière des situations qui sont évoquées. Je vois des lieux, je vois des réalités et des inquiétudes qui m'avaient été partagées à l'occasion de ces visites pastorales. Et donc, évidemment, j'exprime ma proximité, mon soutien à toutes ces personnes qui souffrent et qui souffrent pour certaines beaucoup. Et voilà, je sens une immense détresse parce que une exploitation agricole, ce n'est pas qu'une ressource de salaire, quand c'en est une, mais c'est tout un mode de vie, c'est toute une culture, c'est toute une tradition, c'est tout un héritage de famille et une identité profonde et structurante pour les gens de notre pays. Et notre diocèse est évidemment éminemment marqué par cette réalité du monde de l'agriculture. Et donc, ce qu'ils sont en train de vivre, ben, nous touche et nous concerne toutes et tous. Donc j'exprime vraiment ma proximité, ma solidarité. J'ai pas de solution, je saurais pas dire qui a complètement tort, qui a complètement raison. C'est pas ma compétence, c'est pas mon travail, mais d'être là, d'être auprès d'eux, et puis de vraiment assurer les uns les autres de ma prière pour que la sagesse l'emporte et que les décisions raisonnables soient prises par ceux à qui il appartient de prendre des décisions, qu'elles ne soient pas simplement des décisions de prudence extrême et totalement déraisonnables si c'est le cas, mais qu'elles soient des décisions mesurées, qui tiennent compte des gens, qui tiennent compte des réalités aussi, évidemment, toujours. Ça, de toute façon, le réel s'impose de toute façon. Et puis qu'on puisse se mettre autour d'une table raisonnablement, discuter raisonnablement, et pas être toujours obligé d'avoir recours à la violence et à des formes de pression qui ensuite crée du mal, crée de la souffrance encore plus, et puis sont difficiles ensuite à oublier et décider d'arrêter, et décider de faire marche arrière. Et c'est toujours beaucoup plus compliqué que décider en amont de se mettre autour d'une table, de parler et d'être raisonnable ensemble.
Vous parlez de sagesse, Mgr Mika. Est-ce que vous pensez que c'est sage de la part des agriculteurs d'aller bloquer les abords des stations de ski, où il y a aussi des saisonniers, des familles derrière ces emplois saisonniers, qui attendent les vacanciers qui devraient arriver là dans quelques heures, dans quelques jours. Est-ce que ça, c'est sage?
Ce qui m'inquiète au niveau de notre pays en général, là c'est une crise, mais c'est pas la seule crise, c'est pas la première, c'est peut-être pas la dernière à laquelle nous assistons, c'est que ce sera toujours très compliqué que les gens raisonnables puissent se mettre autour d'une table et trouver ensemble une solution qui soit une solution de compromis et qui satisfasse à beaucoup de paramètres. C'est toujours très très compliqué de constater, et très douloureux pour moi, enfin voilà, de constater que c'est toujours dans l'affrontement et le rapport de force que des décisions sont finalement prises sous la contrainte, et c'est jamais toujours les meilleurs, quoi, pour le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc, moi, simplement, je regrette que ce soit toujours des rapports de force qui conduisent à des décisions. Je préfère, évidemment, la discussion, la réflexion, le fait de le respect, et voilà. Alors après, ben, écoutez, il ne m'appartient pas à moi de juger si telle ou telle action est raisonnable ou ne l'est pas. La violence n'est jamais raisonnable, mais le désespoir conduit à la violence. Et donc, qu'est-ce qui peut être fait en amont pour éviter d'en arriver là ?
Qu'est-ce que Noël va apporter dans cette situation pour ces personnes-là ? Qu'est-ce que vous espérez que Noël leur apporte ?
Ben, Noël, le message de Noël, c'est toujours pareil, c'est, si j'ose dire. Pendant le temps de l'Avent, on écoute le prophète Isaïe qui dit « Regarde, les ténèbres recouvrent la terre. Eh bien, dans ces ténèbres qui recouvrent la terre, une lumière va se lever un jour. » Et la fête de Noël, c'est l'annonce que cette lumière se lève, et elle s'est levée avec la naissance du Christ dans notre humanité. Et si c'était une bonne nouvelle il y a 2000 ans, elle reste une bonne nouvelle pour les ténèbres de notre temps à nous aujourd'hui. Et donc c'est cela le message de Noël que les chrétiens nous devons incarner. Et c'est ce message que nous incarnons dans la foi, en tenant que dans la foi, la lumière se lève vraiment sur les ténèbres, que l'impossible devient possible. Et donc c'est une espérance qui fonde une joie, qui doit l'emporter. Et nous sommes appelés à être témoins de cette joie, y compris auprès de ceux qui peinent, qui ne voient pas le bout du tunnel et la lumière, qui pointent à l'horizon. Et nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle-là, et nous devons tenir, alors même que nous sommes avec les autres dans les ténèbres encore.
Merci beaucoup, Monseigneur. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite évidemment un très bon Noël.
Et je souhaite moi aussi un très très bon Noël à tous nos auditeurs.